BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, on vous accompagne en direct. On est à 5 minutes de la clôture, la première clôture de cette nouvelle semaine boursière. Tout au long de l'été, hein, vous aurez droit bien sûr au débrief de chaque séance en service continu de 17h30 à 18h. Bien sûr, c'est BFM Bourse qui reste là au moment le plus crucial de la séance. Ils vont nous accompagner pour analyser les grands enjeux de marché, puis revenir aussi sur les performances au cœur de cette séance du jour. Le CAC 40 là, gagne 0,1% à 5 minutes de la clôture. Romain Daubry pour Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Dans un instant, donc sur la clôture, vous nous livrerez les enseignements à tirer de cette séance. Et puis pourquoi pas, d'un point de vue graphique, technique, les valeurs que vous repérez aujourd'hui qui offrent le maximum de potentiel. John Plassard aussi nous accompagne pour Cité Gestion. Bonjour John. Ravi de vous retrouver. Et vous serez avec nous quasiment chaque lundi tout au long de l'été. Et Amandine Gérard aussi nous accompagne, président la financière de l'Arc. Bonjour Amandine. Et ravi aussi de vous retrouver. On est ravi que vous ayez répondu à notre appel aujourd'hui. Alors des marchés qui sont en hausse, c'est vrai, à quelques instants de la clôture, à plus 0,1 le CAC. On regarde aussi Wall Street, là c'est une petite baisse pour ce qui concerne le marché américain. Aujourd'hui, rien de méchant, le S&P 500 perd 0,3%, le Nasdaq moins 0,8%. On reviendra sur alors les gagnants, les perdants de cette séance, mais John, ce qui est quand même frappant, c'est que aujourd'hui on a un rebond à nouveau des cours du pétrole, le baril de Brent à $79, avec des tensions au Moyen-Orient qui se confirment. Il y a quelques minutes, Donald Trump a dit vouloir rétablir le blocus naval sur les navires iraniens. Et alors, cerise sur le gâteau, Donald Trump ajoute qu'il faudra désormais, pour les navires qui souhaitent transiter par Hormuz, payer un péage américain. Sur Hormuz, il faudra payer, dit Donald Trump, 20% sur toutes les cargaisons transportées. Le marché n'a pas l'air de le prendre complètement au pied de la lettre. En tout cas, il ne recule pas fortement le marché, John.
Non, c'est un nouveau coup de pression, si on peut dire ça, de Donald Trump, le énième. Le marché n'y croit pas du tout. On a l'impression que Donald Trump veut faire exactement la même chose que les Iraniens, hein, qui ont dit qu'il fermerait le détroit d'Hormuz et que s'il l'ouvrait, eh bien, il prendrait des taxes au passage. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les anticipations d'inflation, surtout sur les cargos qui vont passer dans le détroit. Et évidemment, à la fin, qui va payer? Eh bien, c'est nous. Et donc, c'est aussi des questions qui vont au-delà de ces pressions américaines et iraniennes. C'est vraiment les questions pour les banquiers centraux qui vont être sollicités, c'est le moins que je puisse dire, durant ce deuxième semestre. Mais effectivement, on n'a pas vraiment l'impression que les marchés y croient. Vous venez de le dire, Guillaume, on a les marchés européens qui sont en hausse, en légère hausse, mais on imagine que si ça avait eu lieu il y a un mois et que les Iraniens d'un côté et de l'autre côté, les Américains disaient « on ferme le détroit d'Hormuz », les marchés baisseraient beaucoup plus et le baril qui monte aujourd'hui de près de 4% serait beaucoup plus élevé.
C'est vrai, on est à $79,50 en ce moment sur le baril de Brent. Donc, Donald Trump qui dit que les navires qui transiteront par Hormuz devront désormais payer une taxe de 20% sur toutes les cargaisons qu'ils ont transportées, une taxe au bénéfice des États-Unis.
Alors, je pense que le marché s'habitue aussi aux effets d'annonce de Donald Trump. Et puis là, en l'occurrence, nous ne sommes pas sur le territoire américain. Donc, il n'est pas décisionnaire d'une éventuelle taxe. Et en fait, on attend toujours une résolution, en tous les cas temporaire. Du coup, on est à la veille du début des publications de résultats semestriels. Et le marché choisit aussi de se focaliser sur ces publications, puisqu'elles débutent demain avec les banques américaines et après avec beaucoup d'enchaînements sur les semi-conducteurs notamment.
Oui, alors on va rentrer dans un instant et après la clôture, dans le détail des publications. Bien sûr, dans deux minutes, vous ne la raterez pas en direct avec Romain, la clôture des marchés financiers, le compte à rebours est lancé, c'est vrai. Mais est-ce que le signal pétrole, là, quels enseignements est-ce qu'il faut en tirer? Parce que donc, le détroit d'Hormuz, on ne sait pas si c'est véritablement refermé, le pétrole monte, mais sans plus, quoi. Comment est-ce que vous regardez l'évolution des choses sur le pétrole? Est-ce que le marché croit toujours qu'à la fin, on ira vers la paix et la stabilisation? Ou au contraire, Géraldine, le marché y croit de moins en moins cette fois?
Le marché semble toujours y croire, Guillaume. Et puis, de toute façon, on sait qu'elle est nécessaire pour tout le monde. Après, la question, c'est dans quelles conditions? Et on voit que ce conflit qui est larvé, eh bien, n'arrive pas à s'achever. En revanche, il s'agit toujours, rappelons-le, d'une opération militaire. Et si on devait entrer dans un véritable conflit, Donald Trump a besoin de l'accord du Congrès. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça aussi peut-être que le marché croit toujours à une résolution de ce conflit in fine.
Oui, John, quand vous regardez ces cours du pétrole, effectivement, vous vous dites la question de l'inflation, on n'est pas encore complètement arrivé au bout. On verra ce qu'en dit Kevin Warsh. Hein, il doit s'exprimer, bien sûr, Kevin Warsh, cette semaine, en l'occurrence, devant les commissions du Congrès américain. Ce sera très intéressant, bien sûr, de l'écouter. Et puis, on aura cette semaine aussi des chiffres d'inflation à suivre aux États-Unis. John, des chiffres à pas rater. Dès demain, les prix à la consommation américains.
Oui, mais vous savez, je dirais que si vous avez un Brent qui est proche des 80$, hein, c'est le cas actuellement, bah, ça reste quand même historiquement soutenable pour l'économie mondiale et c'est très inférieur au pic observé lors des précédents chocs pétroliers, notamment dans les années 70. Donc on n'est pas dans une situation où on parle vraiment de choc, on parle de hausse du pétrole et on comprend pourquoi. Ce qui va avoir un impact sur l'inflation, mais pour l'instant, c'est soutenable. Et je pense que c'est ça qui est aussi intégré par la majeure partie des économistes. Alors évidemment, la croissance va un peu baisser. Mmh. On a vu le FMI qui a, il y a quelques jours, eh bien, baissé ses estimations de croissance pour cette année, mais c'est vraiment à la marge. Donc pour l'instant, ça tient, pour l'instant, c'est soutenable.
Tiens, c'est la clôture, ça y est, il est pile 17h35, vous restez avec nous, Amandine, John, bien sûr, pour anticiper les enjeux à venir cet été, première clôture de la semaine, ça y est, en direct, notre CAC 40 termine en hausse, malgré donc voilà les la montée en gamme à nouveau de Donald Trump, CAC 40 à plus 0,3, ce soir en clôture, 8364 points, les plus fortes hausses, Total Energy avec le rebond des cours du pétrole, ce titre Total Energy gagne 3% aujourd'hui, on a aussi Stellantis qui nous annonce une hausse de ses ventes, hein, grâce notamment à l'Amérique du Nord. Sur les derniers mois, le titre Stellantis gagne 1,8%. On y reviendra en détail dans quelques minutes. Et puis les replis. Alors, il y a un changement d'opinion sur Safran qui n'aide pas Safran. Le titre recule aujourd'hui d'1,8%. En revanche, relèvement d'opinion sur Rémy Cointreau. Et là, le titre en profite. Rémy Cointreau gagne en clôture un peu plus d'1,2%. Sur le front des taux, ça se tend. Le 10 ans français remonte à quasiment 3,90. On s'approche des 4%. Inexorablement, sans doute, des 4%. On est à 3,87 ce soir en clôture sur le 10 ans français. Le 10 ans allemand aussi à plus 3,1%, donc au-delà des 3%. Et sur le front des devises, bon, c'est la stabilité entre l'euro et le dollar. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'évolution. L'euro vaut pile 1,14$. Romain, on vous retrouve depuis Bourse Direct. Quel signal graphique cette clôture envoie-t-elle sur nos marchés ?
C'est plutôt le signal de la semaine dernière qui n'est pas excellent. Il y a pas mal de choses qui se jouent cette semaine, effectivement. Vous avez cité le fait qu'on arrive dans la saison des publications, le fait qu'on va avoir des chiffres d'inflation. Et puis, c'est aussi une semaine technique, semaine d'échéance des marchés dérivés du mois de juillet. C'est une échéance mensuelle, ce n'est pas une échéance majeure, mais on sait que ça peut être un pivot de marché vendredi prochain. En attendant, la semaine dernière, on a donné deux messages opposés sur l'indice CAC 40 d'un côté, par exemple, et sur le pétrole de l'autre. On a formé ce qu'on appelle un avalement baissier la semaine dernière sur l'indice parisien et sur le DAX, une couverture en nuages noirs. Ce sont deux configurations graphiques qui indiquent que eh bien, les acheteurs avaient la main en début de semaine et que ce sont les vendeurs qui l'ont prise en fin de semaine. Ce n'est pas un très bon message. Et on a eu le message opposé sur le pétrole. On a un signal d'achat qui s'est déclenché, qu'on prenne le Brent ou le crude. Dans les deux cas, avalement haussier cette fois-ci, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. On a ouvert plus bas, mais on a clôturé plus haut. Donc, on a quand même un message graphique et technique qui n'est pas excellent, qui laisse à penser qu'on peut encore progresser sur le pétrole. On a débordé un niveau pour nous de déclenchement de signal d'achat au-delà de 74,80 pardon, sur le Brent, avec une cible qui est située entre 96 et 98, dans le pire des cas, si on peut dire. En tout cas, un niveau qui pourrait être atteint. Sur l'indice parisien aujourd'hui, on n'a pas un message très fort. On est un peu en demi-teinte. Mais l'accélération baissière et le contre-pied donné la semaine dernière laissent un peu dans une situation d'attente. Il faut dire aussi que sur les marchés dérivés, on n'a eu absolument aucun soutien dans les mouvements de rebond et même une légère augmentation de la position ouverte dans les mouvements de baisse. C'est plutôt des opérateurs qui sont très en retrait. Quand on regarde l'indice Eurostox, le nombre de contrats futurs ouverts est inférieur à 1 900 000. On n'avait pas vu une position ouverte aussi faible depuis le mois de février dernier. Donc, c'est un scénario qui, en fait, très ouvert pour l'instant, avec des petits signes de fragilité et un élément D'accord. complémentaire, que ce soit sur l'Eurostox ou le S&P 500, des ratios put-call qui sont très optimistes. Donc, prudence de ce côté-là, pourrait avoir des contre-pieds et on a l'air de s'habituer à une situation qui pourrait être un petit peu déclencher des dérapages.
Oui, alors on va continuer d'anticiper. Justement, vous restez avec nous, Romain. Dans un instant, vous nous livrerez des idées de valeur, justement, au bord de seuils graphiques intéressants qui pourraient déclencher des signaux pour la suite. Amandine, John, vous êtes aussi avec nous. Amandine, les valeurs qui se distinguent ce soir, on a Stellantis en hausse, donc parmi les plus fortes hausses du CAC. Ils annoncent Stellantis une hausse de 10% de leurs ventes sur un an au deuxième trimestre, portée par l'Amérique du Nord, qui est une région importante pour Stellantis.
Tout à fait. Hein. Rappelons que l'Amérique du Nord représente près de 40% du chiffre d'affaires de Stellantis, soit plus que la Grande Europe. Donc c'est une première bonne nouvelle chez Stellantis. En revanche, il en faudra beaucoup d'autres, puisque le sujet aujourd'hui, il n'est plus seulement opérationnel, et même l'opérationnel n'est plus le premier point, mais en revanche, il est bilanciel, puisqu'on connaît le niveau d'endettement de Stellantis, le ralentissement que le groupe et de manière générale l'industrie a subi, surtout en Europe. Et donc, il y a un vrai sujet sur Stellantis, la note de crédit de Stellantis. Stellantis va-t-elle rester investment grade? C'est pas du tout sûr. Ce qui est intéressant de noter, Guillaume, c'est justement les performances avec une corrélation négative ces derniers jours entre le groupe Renault et le groupe Stellantis, qui rejoint aussi la stratégie implémentée depuis plusieurs années, puisque chez Renault, on a choisi de se focaliser sur quelque chose de très restreint en termes de marque. Mmh. Chez Stellantis, on a 14 marques aujourd'hui. On sait qu'on est dans une industrie avec une marge très faible et sur laquelle on va essayer de grappiller des points de base en permanence. Donc là aussi, Renault a rationalisé sa gamme de véhicules avec des véhicules justement qui prennent moins de temps à produire. Stellantis a plutôt fait l'inverse et force est de constater qu'apportant, dans tous les cas, la stratégie Renault paye plus que la stratégie Stellantis.
Ouais, d'accord. Même si aujourd'hui, Stellantis se distingue parmi les 5 plus fortes hausses du CAC 40 en clôture. John, cette saison des résultats qui va arriver là, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que, quelque part, le marché a suffisamment progressé et donc sera prompt à sanctionner les déceptions sans forcément applaudir les bonnes surprises?
Je dirais que les attentes sont quand même assez élevées. Hein. Vous savez que si on regarde le marché, on va parler de marché européen, mais si on regarde le marché américain, on attend quand même une progression des bénéfices des entreprises du S&P 500 en hausse très forte, puisque c'est un peu plus de 23% de hausse du bénéfice. C'est la plus forte depuis plusieurs années. Et puis aussi un chiffre d'affaires qui devrait progresser de plus de 12%. Donc là, effectivement, ce qui va être très intéressant ici, c'est que on a l'impression que on est toujours dans cette havre de paix lorsqu'on parle des résultats des entreprises. Depuis le début du trimestre, on a eu des prévisions des bénéfices qui ont été encore relevées de 3,5% de la part des analystes, alors que normalement, ils les baissent un petit peu avant le jour J. Et donc, on est dans une situation où on a une valorisation globale, on pourra en parler après, mais qui est quand même globalement assez élevée. Et donc là, le message, pas les résultats des entreprises, mais le message pour la suite sera encore plus important que le premier trimestre. Et puis, si vous regardez, évidemment, je vais terminer là-dessus, si vous regardez l'Europe, hein, la croissance des bénéfices qui est attendue autour de 12%, alors évidemment, ce n'est pas 23%, mais on est dans un environnement où c'est le secteur de l'énergie qui va tirer l'Europe et évidemment, aux États-Unis, le secteur de la technologie. Mais c'est quand même des attentes qui sont très fortes et c'est quand même des attentes qui ne ressemblent pas du tout à une situation où on pourrait rentrer en récession en Europe ou aux États-Unis. Et on en est encore loin.
La bonne nouvelle, effectivement, Amandine, c'est que les prévisions, les anticipations des analystes sur les publications européennes sont loin d'être euphoriques. On attend 12% de hausse des bénéfices, mais en incluant les valeurs énergétiques. Sans les valeurs énergétiques, on attend des profits en hausse seulement de 5% ici en Europe, ce qui laisse peu de place à des déceptions, d'après vous?
Peu de place, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que quelques détracteurs de l'année dernière, notamment le change ou le prix de l'or, attend également les résultats de Richemont, se sont calmés et donc on pourrait avoir une bonne surprise de ce côté-là, en tout cas sur un effet de base favorable, en priorité sur le secteur du luxe. On le sait, les valorisations de certains secteurs sont devenues très faibles et je pense notamment aux ESN et aux SF2I qui performent bien sectoriellement aujourd'hui. Donc, on pourrait également avoir quelque chose de rassurant sur des groupes comme Salesforce, Capgemini. Et là, ce sont des dossiers qui ont été très survendus au cours du premier semestre, hein, puisque le secteur a perdu quasiment 40% sur un mois et demi en début d'année. Et donc, on pourrait effectivement avoir des bonnes surprises également de ce côté-là. Je rejoins John sur les discours, et notamment le discours des dirigeants des banques européennes et américaines, puisqu'on va être prudent aussi sur la consommation, et notamment la consommation du consommateur américain, justement.
Demain, les banques américaines vont commencer à ouvrir le bal. Alors, effectivement, aux États-Unis, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, toutes publieront demain. Et puis ici, en Europe, il y aura, alors vous le disiez, Richemont et ASML. Ça, ce sera en l'occurrence mercredi qui sera la première grosse, il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui publieront, mais c'est pas n'importe quelle entreprise. ASML et Richemont, quand même, ce sera une journée donc intéressante et significative ici en Europe. Juste en attendant, Amandine, on a d'autres valeurs qui se distinguent ce soir à la hausse. Par exemple, Rémy Cointreau, Deutsche Bank rehausse son objectif de cours à 38 euros. Mais reste à vendre quand même sur Rémy Cointreau. Le simple objectif de cours a porté le titre, plus 1,3%. Est-ce que vous avez envie d'accompagner cette hausse ?
Alors, sur le secteur du luxe et de la consommation discrétionnaire de manière générale, on regarde ce qu'il se passe, on reste prudent. Les attentes sont très faibles, hein, plutôt entre 2 et 4% sur ce trimestre de croissance des bénéfices. Là encore, c'est un secteur qui n'est plus du tout détenu par les investisseurs. En revanche, on attend confirmation avec la publication des résultats. Une publication qui sera certainement en demi-teinte pour l'ensemble du secteur. On pourrait voir une amélioration de manière générale sur ce qu'on appelle l'activité travel retail, notamment en Asie. Pour autant, on n'attend pas des chiffres stellaires. Et dans le cas précis de Rémy Cointreau, là où on attend une amélioration, c'est sur la partie cognac, avec une inversion de tendance qui serait très légère, mais en tout cas une croissance qui repasserait positive sur les ventes.
Ce soir, le titre gagne 1,3%. On vous rappelle la clôture du CAC 40. Il a progressé un peu en sortant les rames, hein, plus 0,3%, 8 365 points. Demain, il y aura séance à Paris. Hein. Oui, il y aura séance malgré le 14 juillet. Le CAC 40 sera bien ouvert. Et puis, il y a une introduction en bourse attendue demain. Alors, symbolique, mais voilà, ça occupera un peu la journée. Le CIF français qui doit s'introduire demain matin. Donc John, dans un instant, on va vous retrouver pour essayer d'aller encore au-delà. Juste avant, Romain, d'un point de vue graphique, quelles valeurs se distinguent là ? Quelles valeurs sont au bord peut-être de, pourquoi pas, ouvrir un nouveau champ, enfin un nouveau potentiel, voilà, si elles cassent à la hausse ou à la baisse tel ou tel graphique, et quel niveau graphique ? Et quelles valeurs est-ce que vous identifiez ?
Alors, on a différents titres pour différents profils. Le premier titre que j'ai identifié récemment, c'est Coface. On sait que le secteur de l'assurance surperforme pas mal en ce moment. Et le titre Coface est en train de déborder un niveau de résistance majeur sous lequel il est capé depuis août 2025. Donc, ça fait un an. C'est le niveau de 15,43. Donc, on a évolué dans un range 13,07, 15,43 pendant un an. On est en train de s'en affranchir. La cible, elle est modeste, mais ça reste haussier. C'est 17,72. Et le secteur, on le sait, surperforme. Pour l'instant, on avait évoqué souvent AXA ensemble, qui a un bon comportement, qui fait partie des valeurs qui surperforment à Paris. On voit Téléperformance qui se réveille malgré son plongeon au moment du profit warning dans le secteur il y a une quinzaine de jours, même un mois maintenant. Elle se réveille, elle réagit au-delà de son support à 43,70. On est en phase de construction, mais on a peut-être quelque chose qui se met en place. Il faudrait aller chercher 63, puis 73,10 pour réactiver une mécanique haussière. Mais ça fait partie des titres qui ont nettement surperformé aujourd'hui, qui sont en train de reconstruire, qui ont bien réagi sur ce gros niveau de support. Et puis pour chercher dans un autre domaine, un autre secteur, on a le titre JD.com, donc là, sur le réveil de la tech chinoise. Et ce titre JD est effectivement en hausse encore aujourd'hui, malgré un peu de pause sur le secteur de la tech chinoise d'une façon générale. Il est en hausse de 2,84%. On réagit pour la deuxième fois à quelques mois d'intervalle sur un support majeur à 25,08. Le titre pourrait se réveiller, marquer le début du réveil de la tech chinoise qu'on a évoqué un peu ensemble la semaine dernière. Ça fait pour moi partie des titres qui surperforment. Donc on a un premier niveau cible situé à 34,30 et pourquoi pas des extensions aux alentours de 43.
Voilà quelques niveaux à avoir en tête. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagné ce soir. Romain Dobry depuis Bourse Direct. Justement, vous citiez la tech chinoise. John, on va rester rester en Asie avec TSMC qui a publié quand même ses résultats ce matin. Les ventes records, hein, chiffre d'affaires en hausse de plus de 30%, dopé toujours par l'IA, et c'est jeudi que TSMC annoncera l'ensemble de ses résultats. Ça n'empêche pas la tech asiatique, c'est vrai, de consolider. On a eu ces super annonces de TSMC et ce matin, la bourse de Séoul, alors TSMC c'est Taïwan, mais quand même tout cela est lié, la bourse de Séoul a quand même reculé. Comment est-ce que vous regardez la dynamique de la tech pour maintenant, voilà, cette espèce de changement de rythme, de changement de pied pour la suite?
Les investisseurs, ils veulent beaucoup plus, en fait. Parce qu'on a eu tellement de promesses d'investissement qui étaient tellement fortes de la part des hyperscalers, notamment sur les semi-conducteurs. On a eu des messages ultra positifs, que ce soit par les dirigeants de OpenAI ou de NVIDIA. Et on est dans une situation où, lorsqu'on regarde très concrètement les résultats de TSMC, ben, ça confirme que la demande reste très solide, malgré toutes ces interrogations et des multiples de valorisation qui, des fois, font assez peur aux investisseurs. Donc, on est dans une situation où on a des inquiétudes aujourd'hui sur les surcapacités et puis sur la monétisation, cette fameuse monétisation que tout le monde recherche maintenant, les investisseurs, hein, sur l'intelligence artificielle. Et c'est le principal sujet des investisseurs. Il ne suffit pas. Il faut regarder les résultats de Samsung la semaine passée, qui étaient absolument délirants dans tous les cas, dans tous les termes. Et malgré cela, eh bien, l'action était en baisse. Donc, on veut vraiment qu'on ait un retour sur investissement. C'est-à-dire que, lorsque je dis retour sur investissement, c'est-à-dire que lorsqu'on met quelque chose sur la table, eh bien, il faut que ça rapporte tout de suite beaucoup plus rapidement que les promesses qu'on avait eues lors du quatrième trimestre de l'année passée. Mais ce que je remarque aussi, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est toujours là. On en parle tous les jours ensemble, Guillaume, presque. Et ça nous prouve vraiment que c'est une révolution technologique, on l'a déjà dit, mais une révolution industrielle. Alors, vous savez, dans toutes les révolutions industrielles, on a des petits cycles. Donc, il y a des sociétés qui publient moins. On l'a vu, hein, dans toutes les anciennes révolutions industrielles, les sociétés qui publient en dessous des attentes. On a même des sociétés qui disparaissent. Mais on est vraiment dans une situation où l'intelligence artificielle va rester avec des interrogations, mais ça va continuer de croître. On avait vu, on avait parlé de l'intelligence artificielle sur Terre. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle dans l'espace. Hein. On va y revenir, de toutes ces promesses d'Elon Musk sur les data centers dans l'espace, etc. Ça aussi, c'est des relais de croissance. Donc, je suis toujours extrêmement optimiste sur le secteur de la tech globalement. Mais évidemment, il faut des consolidations. On avait vu un titre comme Micron qui était monté au ciel d'une manière absolument folle. Et ben, il faut des consolidations. Et c'est pas pour ça que la valeur va décevoir.
Amandine, du coup, quelle place vous comptez faire aux données octroyées à la tech dans vos prochains choix d'investissement? Bien sûr, la tech, elle est très présente, j'imagine, dans vos portefeuilles. Mais parmi ces secteurs, vous souhaitez renforcer, vous placez où la tech et quels autres secteurs est-ce que vous souhaitez désormais privilégier?
Alors déjà, la tech, elle est très présente, oui, mais in fine, eu égard au poids des indices, notamment dans les indices américains qui ne sont pas surpondérés, nous sommes tout pondérés tech. Ça, c'est le premier point. Donc, je suis pas sûre qu'on fasse une évolution forte au S2 du poids de l'évolution de la tech dans les portefeuilles. En revanche, des rotations et du stock picking au sein de cette tech et des purs semi-conducteurs, oui, ça c'est certain. Je trouve qu'on parle assez peu de la cybersécurité, le besoin aussi sur ce segment-là, et là-dessus il y a des choses à faire. On a parlé des ESN, du conseil et des valeurs comme Salesforce qui ont fortement dérated et qui restent de la tech, ont leur place aussi dans nos portefeuilles. Après, on le sait, vous en parlez tous les jours sur cette antenne, le marché est très polarisé et la gestion passive n'aide pas. Donc, il est difficile pour des gens actifs comme nous d'arriver à équilibrer nos performances et notre portefeuille. Mais on est très vigilant sur l'aspect justement de la volatilité et du risque et de la performance annualisée de nos clients. Et ça, c'est important, surtout quand on en est à la quatrième année consécutive de hausse sur les marchés actions sans réelle consolidation, comme vient de l'évoquer John. Donc, oui, on va garder de la tech. Oui, on va faire de l'arbitrage de stock picking. Et non, on ne va pas renforcer le poids du secteur dans nos portefeuilles.
Qu'est-ce qu'il faudra suivre d'autre là au deuxième semestre, Amandine ? Alors bien sûr, il y a Kevin Warsh qui doit s'exprimer là devant deux chambres du Congrès demain et après-demain. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va raconter. Mais au-delà de ces questions d'inflation, qu'est-ce que vous allez particulièrement suivre au-delà aussi des publications ?
Qu'est-ce qu'on va particulièrement suivre, nous, c'est le secteur de la défense puisque et de l'armement et de l'aéronautique dans son ensemble, puisqu'on cherche des secteurs à forte visibilité. Concernant la macro, on va suivre bien entendu l'OAT française. On a nettement réduit depuis 18 mois la pondération de la France au sein de nos portefeuilles et on va le maintenir en amont de ces élections présidentielles. Vous l'avez dit en introduction, on revient sur les niveaux les plus élevés de l'OAT 10 ans. Donc, je le rappelle, 3,92 il y a encore quelques jours de cela. Donc, il y a un vrai sujet, on le sait, sur notre situation budgétaire. Et également la succession de Christine Lagarde, puisqu'on le rappelle, elle a demandé à ne pas clôturer son mandat et à ce que son successeur soit élu avant la fin de l'année.
Oui, ce sera un enjeu. Alors, on aura l'occasion d'y revenir sans doute, effectivement, si Christine Lagarde quitte son poste avant la fin de son mandat. Le CAC, ce soir, on vous le rappelle, a clôturé en hausse, plus 0,3%. Wall Street est toujours en petite baisse. C'est vrai que le 10 ans français, c'est l'un des faits marquants de cette séance. Ce sera tendu, mais comme la plupart des taux souverains, le 10 ans allemand est à plus de 3%, 3,1%. Le 10 ans américain, ce soir, John, est à 4,6. Et le 10 ans français, presque à 3,9, à 3,87, là, le 10 ans français. Est-ce que les 4% sur le 10 ans français, pourquoi pas, John, pendant ce deuxième semestre ou pendant la campagne présidentielle, c'est inéluctable.
Oui, on va pas se voiler la face et je dirais que même au niveau actuel, le 4%, c'est un niveau psychologique, mais on est aujourd'hui dans une situation très spécifique en France. On l'a dit que on était avec le l'OAT à 10 ans, c'est un indicateur financier, mais aussi politique. On n'en parle pas, mais la question une potentielle présidence de Marine Le Pen fait peur à certains investisseurs et ça se voit sur le OAT française. Évidemment, si on passe au-dessus des 4%, ou si on reste sur les niveaux actuels, ça va mettre des pressions sur les finances publiques, sans nécessairement déclencher des réformes immédiates. On sait la difficulté actuelle en France à mettre des réformes en place, mais on est dans une situation où on va, et je le répète depuis de nombreuses années, c'est que si vous voulez avoir de la croissance, si vous voulez avoir des relais de croissance, il faut investir. Le problème, c'est que si on investit, ça met encore plus de pression sur l'OAT française. Alors, où on décide d'aller voir les agences de notation en leur disant « écoutez, il faudrait mieux déjà dégrader ma note parce que je vais investir beaucoup plus » pour la croissance future, que d'attendre que ça se passe languinant, et on sera toujours tellement dépendant de la croissance allemande, de la croissance américaine, et pourquoi pas aussi de la croissance chinoise, parce que c'est une semaine qui sera marquée par les chiffres de la croissance chinoise.
Ah oui, on aura le PIB chinois, effectivement, ce sera jeudi. Si... On n'en parle pas assez, peut-être, de la Chine. La dynamique chinoise, il nous reste à peine 30 secondes, John, elle nous fait pencher de quel côté, là ? Du côté d'une accélération de la croissance et d'une bonne nouvelle mondiale, ou au contraire, un ralentissement ?
Non, vous savez, le problème avec les Chinois, ce qui est un avantage pour eux, c'est qu'eux ne voient pas à 3 mois. Ils voient beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si la croissance devait ralentir au-dessous des 4,5, évidemment, ça pourrait faire quelques bruits dans certains médias européens ou voire américains. Mais je ne pense pas que c'est un problème. Je pense qu'ils se concentrent sur le futur, que ce soit la technologie. Vous l'avez dit avant, Guillaume, que ce soit les énergies renouvelables, ils investissent énormément. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais eux, ils investissent. Alors, la situation politique est totalement différente, mais eux, ils investissent pour avoir un retour à l'avenir.
Oui, oui. Amandine, la Chine, comment vous la traitez ? Il nous reste 30 secondes, pareil. Plutôt facteur d'espoir ou d'inquiétude ?
D'inquiétude, non. Je dirais sur ces niveaux de valorisation. Après, c'est une zone qui est loin de nous pour laquelle on n'a pas tous les éléments. Donc, sur ce sujet, on choisit justement une allocation d'actifs plutôt globale en nous appuyant sur l'expertise de certains de nos confrères des ETF, justement.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur BFM Business. Ce soir, nos deux invités, Amandine Gérard, présidente de la financière de l'ARF, John Plassard, associé responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Bonne soirée. On salue aussi Romain Daubry qui nous accompagne depuis Bourse Direct. Dans un instant, le 18h avec Erwan Maurice. Le CAC 40, on vous le rappelle, ce soir a gagné 0,3%. Alors Total Energy a bien progressé avec les cours du pétrole qui ont progressé aussi. Total Energy gagne 3%. En revanche, Air France KLM, du fait des tensions à nouveau au Moyen-Orient, recule de 3,3%. Dans un instant, donc, toutes les infos économiques du jour sur BFM Business. Bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.